Salut Charline.
Je suis contente, on reçoit Virginie Efira.
Oh, génial, elle est jolie.
Oui, ouais. Enfin, c'est surtout une super actrice.
Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est une super actrice.
Non, mais César en plus.
Trop forte. Ouais. Ouais. Ce qui est fou, c'est qu'au début, elle était animatrice.
C'est vrai que Denise Fabre, elle n'a jamais eu de César, finalement.
C'est vrai ça, elle était animatrice au départ. Et puis.
Peut-être que toi, du coup, un jour.
Ouais, enfin, comment les gens vont savoir que je suis une super bonne actrice?
Je sais pas, Virginie Efira, elle a dû jouer dans des sketchs, des trucs comme ça.
Ah ouais, alors je suis foutue.
Mais non, mais toi aussi, tu joues dans des sketchs.
Ah, c'est bien ça le problème.
Pardon.
Virginie, elle a des beaux rôles. Elle peut montrer toute sa palette d'actrices. Puis moi,
c'est pareil.
Moi, je joue dans des sketchs écrits par vous deux.
Oh,
je fais toujours la coconne. Salut les amis.
Ouais, c'est pas très sympa, franchement.
Attends, et Virginie, elle a des partenaires à la hauteur. Hein. Vincent Lacoste, Pierre Niney. Alors que moi, moi, c'est vous.
Ça va, attends.
Je suis obligée de baisser mon intensité de jeu pour qu'on n'entende pas trop la différence avec vous.
C'est pas très gentil pour les garçons.
En même temps, c'est pas tout à fait fou.
Ouais, si c'est comme ça, très bien.
Tu pars.
Non, je vais te proposer un truc à la Anneke. Donc, on reprend cette conf de rédac. Tu rentres, t'es déprimé, y a personne, tu te rends compte de la solitude de ton personnage et tu meurs.
Voilà un beau rôle.
On y va. Alors
c'est
refait.
C'est parti.
Action.
Salut les amis. Il y a personne. Ça fait 12 ans qu'il y a personne. Mais c'est pas grave. Il reste du café froid, un vieux journal. Je vais chercher des sujets. On va parler de l'affaire Bérégovoy. C'est bien pour une émission drôle, un suicide. C'est toujours drôle, un suicide. Tiens, ici, j'avalais la boîte de calmant pour voir. Ça dérange quelqu'un? Non, il y a personne. Adieu, monde cruel.
Coupé.
Voilà, elle était bien cette couve de rédac. Enfin, moi, je pense que la Virginie, elle vit ses dernières belles années parce que j'arrive là. Bon, ils sont où les autres?
Ils ont trouvé sa nuit, ils sont tous partis. C'est de la merde.
Nul. En fait, c'est le public qui est pas à la hauteur. Bonjour la France Inter, bonjour la France entière. Vous écoutez l'émission qui prend le large pour aller à la conquête de l'information et voici les deux invités qui vont ramer pour faire avancer cette galère. Virginie Efira, avec qui on s'est demandé « Tiens, pourquoi déteste-t-on les politiques ?» C'est le titre d'une étude parue aux presses de Sciences Po. C'est dire si c'est une question sérieuse. Mais on a aussi parlé perturbateurs endocriniens parce qu'on ne recule devant aucun sujet. Ensuite, on accueillera Éric Judor, avec lequel on s'est demandé s'il était possible d'aller bien dans un monde qui va mal. Vous, ça va, Alex Vizorek?
Moi, ça va très bien, dans un monde qui va en marche.
D'accord.
Vous voulez savoir qui j'ai dans mon panier de chroniqueurs?
Oui,
je sentais que c'était ça que vous vouliez. J'ai du Clara Dupont-Mono, qui va nous parler du labyrinthe en littérature. J'ai aussi Guillaume Meurice, qui est allé au salon de la chasse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Si, bien sûr.
Un petit peu un vase de porcelaine dans un magasin d'éléphants. J'ai aussi André Manoukian, qui voulait rendre hommage à un musicien, sauf qu'Éric Judor était à côté. Ça n'a pas été si facile. Frédéric Fromet terminera en chanson avec la Clause Molière et deux sketchs, dont le fameux sketch avec Virginie Efira sur la découverte de planètes par des astrophysiciens belges, un moment d'anthologie.
C'est vrai que là, dans les deux cas, rien ne s'est passé comme prévu, alors profitez-en, c'est parti.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bonjour Virginie Efira.
Bonjour Charline.
Bienvenue chez nous.
Bonjour à tous.
Enfin chez eux, puisqu'on est tous belges.
Oui, dites donc.
Alors, premier sujet avec vous Virginie. Pourquoi détestons-nous les politiques? La question est à ce point brûlante que les presses de Sciences Po publient l'ouvrage de deux professeurs qui proposent des explications sur ce thème, parce qu'il va bien falloir en sortir. En attendant, tous les témoignages vont dans le même sens.
Dans ce métier, il y a une ribambelle de connards qui ne regardent pas les choses en face. Ces pauvres cons s'imaginent qu'ils vieilliront comme le vin. Si ça veut dire virer au vinaigre, d'accord. Mais si ça veut dire se bonifier avec l'âge, mon cul...
Alors, il y a un ouvrage donc publié aux presses de Sciences Po qu'on salue parce qu'ils nous écoutent, paraît-il, avec deux professeurs, Emiliano Grossman et Nicolas Sauger. Pourquoi détestons-nous autant nos politiques? Est-ce que vous avez aussi une forme, peut-être pas de détestation, je trouve que le mot est fort,
de haine?
Vous avez une haine du politique ou une manque de confiance, une aversion?
Non, j'ai pas une aversion parce que j'ai l'impression qu'on peut pas tout le côté les politiques ils se ressemblent tous et tout ça, l'espèce de choses complotistes, enfin là il se passe des
populistes
et tout ça, je trouve ça compliqué. Après je comprends assez bien cette chose là où on a l'impression peut-être qu'il y a une forme de d'institution discussion si dans l'histoire française, qui est un petit peu marquée, qu'on viendrait toujours du même profil, qu'il y ait une forme de vanité qui passe avant. C'est sûr, quand on regarde un débat politique, il y a toujours, on a l'impression qu'avant les idées, il y a l'individu, et c'est toujours que dès qu'il y a une idée contraire, on va, dès qu'il y a une idée qui pourrait être intéressante, parce qu'on fait partie d'un autre parti, on la conteste immédiatement ouais. sans essayer d'étayer une pensée, parce qu'on a l'impression que, effectivement, que cette logique très juste de la démocratie qui fait que, mais qu'il y a une réflexion à court terme et qui fait aussi qu'à des endroits où on attend quelque chose, c'est-à-dire le politique ou même le médiatique, c'est-à-dire des réponses qui ne sont pas des réponses à court terme ou des choses où on essaie de réagir de manière immédiate parce qu'on ne peut pas avoir ces bonnes réponses-là, que le politique aujourd'hui agit aussi avec une part d'émotionnel qui est assez déstabilisante.
Et une partie de ce que vous venez de dire figure dans cet ouvrage d'ailleurs.
Oui, j'imagine qu'il y a quantité d'autres choses.
Non, bien sûr, il y a plein de paramètres et notamment
après,
le fait...
rejeter le politique, enfin, je veux dire, moi je crois très fort en ce que si tu t'occupes pas de politique, elle s'occupe de toi, donc comment faire avec toutes ces choses-là, quoi.
Et notamment le fait que les Français sont particulièrement cyniques vis-à-vis de leur politique.
Pas
il y a toute
nous,
une explication de ça dans le livre. Vous vouliez peut-être une remarque
Oui, juste préciser que la détestation marche aussi avec l'adoration, parce que pourquoi est-ce que si on adore nos politiques, quand on se souvient de François Mitterrand ou de notre attente vis-à-vis de l'homme providentiel, le titre est un peu trompeur parce qu'il voit 50% du verre. Il y a 50 autres pourcents où notre lien passionnel avec la politique, qui est le luxe des démocraties, quand même, faut le rappeler, fait qu'on a autant d'adoration et d'attente que de détestation parce que déception. Mais s'il y avait déception, c'est bien qu'il y avait des attentes.
Oui, voilà. Oui.
Bah
oui.
Alors ça, je vous propose du coup de rajouter un chapitre.
Voilà.
Parce que, non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Bon. Je vous renvoie les presses de Sciences Po. Hein, pourquoi détestons-nous autant nos politiques, où tout est extrêmement détaillé et sourcé avec plein d'explications. Et donc, entre autres, ce qu'on vient de dire et le cynisme des Français. Oh, c'est français, je vous jure.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me
Malavida sur France Inter.
Charline Vanhoenacker.
Que je salue.
Alex Vizorek.
C'est quoi cette histoire? C'est...
Si tu écoutes, j'annule tout. Ah. Sur France Inter.
On va aborder ce deuxième sujet avec vous, Virginie. Quand qu'ont en commun les cheveux de José Bové, Isabelle Autissier et Nicolas Hulot, tous écolos. On s'était dit qu'ils contiennent tous des traces de cannabis. Un peu de cannabis. Mais non.
Même pas.
Non. Enfin, alors ça, on ne sait
oui,
pas.
Oui, j'allais dire.
On ne sait pas. En tout cas, ils contiennent de nombreuses traces de pesticides, de plastiques et d'insecticides. C'est la conclusion tirée par l'association Génération Future. Et dans 50 ans, quel sera le constat sur un individu?
Oh, admirable! C'est le dolichocéphale parfait, très rare chez un Européen. Chapeau! Regardez, le frontal daoméen, l'occipital moustache, le pariétal berbère et l'orbite égyptienne, ça... C'est très rare. Quel dommage que les apophyses ne soient pas plus agressives. Mais quelle tête admirable, quelle faciès. J'espère avoir la chance de travailler un jour sur vous.
Francis Blanche dans Les pissenlits par la racine, ce qui va nous arriver beaucoup plus vite que prévu apparemment. Je vous détaille la chose. Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du WWF, elle a 68 perturbateur endocrinien détecté. Donc elle dit, mais je suis terrifiée, d'autant plus que j'essaye de manger bio. Je ne mets quasiment rien sur ma figure. Chez moi, j'ai pas de produits ménagers. Alors vous, Virginie Fira, est-ce que ça vous effraie? Vous dites, tiens, dans mon cas, ça se passerait comment?
Vu que moi, je m'expose à tout, hein, sans crainte, je pense que j'ai rien sur la tête, quoi. Non, moi, j'y vais. Oui.
Ah, vous allez tout droit, vous.
Oui. Ah, bon, non, grande consommatrice de gluten, grande consommatrice de tout, là, oui.
Ah, mais c'est chouette, c'était une bonne vivante. Mais oui.
Non, mais enfin, je veux dire que c'est amusant, d'ailleurs, de constater que quelqu'un qui ne devrait pas du tout y être sujet y est totalement. On a l'impression qu'il n'y a aucun endroit protégé, quoi. Et que si on se met un obsédé de la protection, de ça on peut pas et tout ça.
Oui, ça sert à rien d'être obsédé de la protection parce que c'est en dehors, ça nous échappe, quoi, c'est ça.
Après, c'est quand même intéressant de se poser un tout petit peu la question de d'où proviennent les choses.
Oui, ça pose surtout cette question-là quand même, je pense.
Oui,
d'où
voilà.
Viennent les saloperies qu'on a sur la tête.
Exactement.
Peut-être plus.
Oui, c'est vrai. Alors José Bové, il dit il a découvert qu'il avait 3 PCB, 11 plastifiants, des pesticides, insecticides, alors qu'il a jamais utilisé sur son exploitation agricole d'insecticides, etc.
Ouais.
Non, alors il ajoute, parce qu'il suffit qu'il y ait une bombe d'insecticide qui a été passée sur la moquette du Parlement européen. On ne dira jamais assez comment c'est dangereux de siéger, quoi.
Ils n'ont pas pris les poils de moustache. On aurait trouvé d'autres saloperies.
Il y a quelque chose d'écolo en vous, Virginie Efira. Vous êtes conscientisée à ça aussi? Vous faites des gestes réguliers ou pas? Ou c'est venu sur le tard?
Vous pouvez dire non. Parce qu'on sent que
Oui, bah donc c'est
des gens qui me connaissent, qui m'écoutent, s'ils m'entendent. Je fais attention à la ce que j'achète, machin, etc. Après, j'ai l'impression que c'est tellement plus global que ça. J'ai toujours l'impression que c'était plus quelque chose de politique et de global que chacun avec sa petite conscience personnelle. Enfin, là, je vais me faire détester.
Découragé face aux industries, par exemple. C'est ça l'idée.
Oui, enfin, c'est ça. Alors, oui, bien sûr. Ou alors, allons vivre au sommet de l'Himalaya ou chez André.
Non, il y a plein de déchets au sommet de l'Himalaya.
C'est une chose beaucoup plus globale, quoi. Et on a l'impression que c'est des interdictions à bien plus haute échelle qu'il faudrait pour faire avancer les choses. C'est plutôt ce qui se passe dans les grands sommets où il y a des avancées. Mais enfin,
c'est l'excuse pour vous dédouaner, hein, Virginie.
Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous trouvez que c'est assez un. Ah, pardon.
Non, mais je ne vais pas faire des grandes leçons alors que je prends des grands bains, quoi. Voilà.
Comme vous avez le crachoir, Clara Dupont-Mono. On va passer tout de suite à votre chronique.
Mais oui, Virginie Fira, puisque vous aimez les livres.
Oui.
Ah, bonne réponse. Voilà. Il y en a qui répondent non, elle ne fait pas de chronique après. Elle est un peu dégoûtée.
C'est des gens qui répondent non. Non, je déteste ça. Tout ce qui est lecture, tout. Culture, non, ça m'ennuie. La musique, André, je préfère te dire que j'aime pas ça non plus.
Parce que l'actualité, c'est cette campagne dont on parle évidemment, mais qui tourne un peu sur elle-même, qui s'enlise, qui tâtonne, qui ne trouve pas la sortie. Et c'est pourquoi nous parlerons aujourd'hui de la figure du labyrinthe. J'aime cette figure du labyrinthe, moi Virginie Efira, parce que c'est la plus fondamentale dans l'histoire de l'humain. Le labyrinthe, vous la retrouvez sur des partitions, vous la trouvez en architecture, vous la trouvez en peinture, en littérature. Pourquoi ? Parce que le labyrinthe, il symbolise en fait la vie. Dans un labyrinthe, comme dans la vie, il y a des errances, alors pas seulement idéologiques, Guillaume Meurice, ni sexuelles d'ailleurs, Alex Vizorek, nous errons tous, nous sommes conditions humaines qui cherchons une boussole pour se repérer. Et puis le labyrinthe, il est truffé d'impasses. Or, il faut savoir que l'idée de l'impasse, elle symbolise l'erreur. Donc l'erreur, on en fait tous aussi, et les politiques aussi, dire les anti-mariages pour tous ont été humiliés, passés chez Karine Le Marchand, ce sont des impasses, par exemple.
Et bien sûr, dans un labyrinthe comme dans la vie, comme dans une élection présidentielle, plane l'idée qu'il n'y a qu'une seule issue et qu'on n'a pas intérêt à se planter. Alors évidemment, ce genre de symbolique, la littérature, elle adore. Et c'est pourquoi elle nous offre en fait plusieurs options. Vous avez la première option qui est l'option très noire. C'est-à-dire que le labyrinthe, en fait, c'est l'enfer. Il faut 9 cercles concentriques chez Dante, dans la Comédie humaine, écrite en... La Comédie humaine. Dans la Divine Comédie, pardon, écrite en 1303, pour descendre une espèce de gigantesque entonnoir vers le centre de la Terre. Et puis, en matière d'obstacles, Dante, il en rencontre dans son labyrinthe. Il doit passer à travers les limbes, il doit longer des tombeaux, il doit éviter des démons. Donc, c'est quand même autre chose comme obstacle que l'emploi fantôme d'une brave châtelaine sartoise. Mais, heureusement, l'enfer se maîtrise. François Fillon en sait quelque chose et ça lui fait un point commun avec Umberto Eco, puisque Virginie Ferrat, peut-être avez-vous lu ce très beau roman qui s'appelle Le Nom de la Rose. Mmh. Voilà. Eh bien, au centre de... Vous avez le droit de dire non aussi, hein. Vous en faites pas.
Ah oui, mais je fais... j'ai vu, c'est ça que je voulais dire, j'ai vu le film et j'ai pas lu.
Et ben, il est assez, moi aussi, je suis solidaire.
Le film est assez fidèle au livre, mais au centre en fait, du roman se trouve un labyrinthe qui abrite une bibliothèque. Mm-hmm. Je sais pas si vous vous souvenez. Mm-hmm. Et ben, cette bibliothèque, mm-hmm. elle est classée, oui, elle est en ordre. Et ouais, donc, le message implicite de Umberto Eco, c'est quand même de dire que le chaos, ça se dompte. Donc, c'est quand même assez optimiste. Et il y en a même qui vont plus loin dans l'optimisme en faisant du labyrinthe non pas un obstacle, mais un passage. Que doit traverser Alice au chapitre 8 de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll ?
Un labyrinthe.
Ah, voilà. Bravo,
ah,
Alex
Vidorek. C'était facile, elle l'a dit
avant.
Ouais, ouais, trop fort. Merci,
et j'écoute, il débouchera moi. Sur quoi ?
Un labyrinthe.
Non, un château. Ah. Dommage.
Ah, oui, la reine.
Un château. Et à ce propos, il y a un roman qui vient de sortir, qui est basé sur la figure du labyrinthe passage, et il s'appelle Arcane, et il est signé Pierre Bordage. C'est de l'héroïque fantasy. Alors, je sais, vous allez me dire, ah, mais l'héroïque fantasy, c'est quand j'étais adolescent, gna 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 gna. Vous faites erreur, tous autour de cette table, vous qui n'avez rien dit.
On ne dit
mais
pas gna 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 gna, c'est Alain Finkielkraut qui dit ça.
Voilà, taisez-vous. Mais en témoigne le succès de la série Game of Thrones, c'est bien que l'héroïque fantasy, c'est quand même ça, ça n'est pas que réservé aux ados et c'est extraordinaire de qualité. Moi, personnellement, je suis fan. Ce roman, en tout cas, il m'a tenu éveillé, il m'a fait dormir, en gros, quelques heures durant une poignée de nuit, tellement c'est haletant et vous ne pouvez pas fermer ce livre. C'est l'histoire d'un monde qui s'appelle Arcane, un monde où il n'y a pas de pauvres, où il n'y a pas de maladies, et il repose sur un gigantesque labyrinthe qui conduit au monde d'en bas, nettement moins reluisant. Donc en haut, on a les élus, en bas, on a les rebuts, et au milieu, on a un labyrinthe. Alors dit comme ça, ça fait la vision de la société française par Jean-Luc Mélenchon, mais non, c'est le labyrinthe à la fois comme porte et comme frontière, et à la fois comme passage et comme limite. Et il y a des guides qui s'appellent des torcherons, et non pas des torchesong, qui chaque jour emmènent un groupe de personnes qui font le va-et-vient entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ils connaissent de mémoire les méandres du labyrinthe, il n'y a pas de plan qui existe, ils ont appris les routes du labyrinthe depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont la version humaine en fait du fil d'Ariane, rappelez-vous le mythe de Thésée. Ils sont la version humaine des petits cailloux du petit poussé, qui sont eux-mêmes inspirés du fil d'Ariane. Et pareil pour la bibliothèque du nom de la rose, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent le chaos. Et chaque fois qu'ils prennent la torche, les torcherons, ils se tournent vers les suiveurs en leur disant « Je suis un passeur, ne perdez jamais la flamme des yeux. » Et bien entendu, l'héroïne la perd de vue et se retrouve dans le noir complet, dans le labyrinthe. Et là encore, c'est un parallèle un peu avec nous français. Arcane de Pierre Bordage est paru chez Bragelonne.
Merci Clara Dupont-Mono.
Il n'y a
et
pas
on
de mal.
Peut vous réécouter sur franceinter.fr où toutes les références sont indiquées. Troisième sujet. Il y a 30 ans, le Larzac était le symbole de la contestation à la française, le foyer antimilitariste et pacifiste. Aujourd'hui, 715 soldats de la Légion étrangère se sont installés avec leurs familles. Les commerces tournent à plein, les écoles se garnissent et l'église est remplie. On n'entend plus crier « mort aux vaches au pays des brebis », on n'entend plus que la voix de la Légion.
Voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul.
Quelle belle chanson.
Le chant de la Légion, on va dire après, bien la première fois que vous dites ça à propos de militaires. Les verts et blancs. Je sais
pas, les paroles sont percutantes.
Virginie Fira, est-ce que quand on vient en Belgique, on a entendu parler du Larzac comme foyer de contestation, faisant partie du bon gros cliché français ou pas tellement?
Ah, je vais autant la Belgique que vous, hein. Enfin, ça fait un moment que je suis ici quand même. Hein. Donc,
c'était il y a 30 ans le Larzac.
Vous aviez quoi,
9, 10 ans?
Non, j'ai 39, ouais. J'avais 9 ans. Ouais. Non, c'était pas un grand sujet majeur à chaque dîner, quoi.
Mais et le côté un peu anti...
Ah, c'est con, parce que...
Chez moi, énormément. Alors là, beaucoup.
Ah, chez moi aussi. Non, mes parents, même une terre.
Mais
une,
non, mais moi, l'Arzac, ça évoque José Bové, les démontages de McDo, les bazars pareils.
Évidemment,
quoi.
Oui.
J'ai l'accent qui remonte quand je...
Expliquez-nous, ils s'entraînent ou...
Non, alors ça fait un an.
Il y a un camp militaire.
Il y a un camp militaire qui s'est installé, sont revenus s'installer là-bas. Alors ils ont fait Djibouti, l'Afghanistan pour se retrouver dans le Larzac.
Non, mais déjà à la base, le Larzac, c'est les gauchistes qui ont investi cet endroit pour empêcher l'armée de faire des essais.
Et 30 ans après, on les accueille et tout. Donc on n'est plus antimilitariste, on n'est plus du tout pacifiste. Vous avez un côté antimili, pacifiste.
Plutôt ça que guerrier, quoi.
Préférez la paix à la guerre.
Vous avez vu le piège.
J'allais vous demander. Parce que vous avez des héros ou des héroïnes contestataires dans votre panthéon. Est-ce que vous avez ce côté-là aussi et des figures comme ça
On parlait de Che Guevara à table.
Rosa Luxembourg,
des héroïnes contestataires.
Là, je trouve fait, enfin, un truc vraiment. On jugera pas.
Non, mais si.
Ou est-ce que ça vous plairait d'en jouer? Voilà.
Oui, enfin après.
Christine Lagarde, j'essaie de vous aider au maximum.
Non, mais c'est très très large d'un coup, donc ça va à plein d'endroits, quoi. De tout ce qui remettra en question, tout ce qui n'est pas la résignation et suivre l'ordre commun, ça peut se jouer pour ça. Moi, j'ai l'impression que tout est politique finalement et que quand on raconte une histoire, même dans l'intime, il peut y avoir quelque chose déjà qui. J'aime bien vous essayer de m'aider parce que vous faites des grands
signes d'admiration. Je vais vous dire, c'est pas mal ce que tu dis.
Virginie, on parlait dans l'intime.
Non, on ne parle plus du tout parce qu'en fait, je voulais dire, on a choisi ce sujet.
Ça,
juste pour passer, tiens, voilà du boudin. C'est passé, on passe à autre chose. Et puis voilà.
Et on est bien content parce que c'est le sketch. Non. C'est le sketch de fin d'émission.
Et vous avez vu comment je fais les transitions
Vous tombez un jour où il y a un gros événement qui est arrivé en Belgique, puisque la NASA a donc trouvé cette planète. Et c'est une équipe de liégeois.
On en a parlé déjà deux fois, non?
Oui, mais c'est l'objet du sketch.
Oui. Et c'était vrai parce que vous avez dit dans le truc, là, ils ont vraiment parlé comme ça?
Tout est véridique. Et le plus rigolo, c'est le groupe de chercheurs, il s'appelle Speculos pour Search for Habitable Planet Eclipsing Ultra Cool the Stars.
Mais c'est vrai,
véridique. Et leur télescope s'appelle Trappist. Donc c'est un peu des rigolos. Comment ça s'est passé? Guillaume Meurice, journaliste à France Inter, se rend à Liège. Charline, Virginie et moi-même, nous sommes l'équipe de chercheurs.
Moi je dis Virginie.
Votre plus bel accent liégeois. Hein.
D'un coup.
Alors, expliquez-nous, comment avez-vous fait cette découverte?
Ouf, tiquet en fait.
Oui, ça s'est passé au soir, juste avant de souper.
Oui, parce qu'on venait de faire une petite soquette. parce qu'on a fait une dure la veille.
Alors, attendez, une soquette, c'est sexuel?
Mais qui est barbe, on suit. Non, pas du tout, hein, que c'est une sieste.
On devait démonter notre télescope. Et là, je me dis, est-ce que je jetterais pas un œil une dernière fois?
Exact. Moi,
on comprend rien. Il y a son œil sous le télescope, moi, je lui demande à qui est ouvert, allez.
Et là, on le voit devenir blanc comme une maquille.
Attendez, c'est pas évident, hein, quand même, parce que vous dites une maquée, donc.
Une maquée, c'est simple, comme une voie lactée, si vous préférez.
D'accord, en français,
vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire, quand même.
Et là, je vois un point lumineux de la taille d'une chic.
Moi, je me dis qu'il nous raconte des caravisseux.
Allez, attendez, des caravisseux, quoi, c'est-à-dire
Je pense qu'elle en a toutes ses frites dans le même sachet.
Pareil, je me suis dit, c'est pas possible. Il louche, il a un œil qui l'immerte à l'autre.
Mais nenni, hein, moi, je vois une étoile pas plus grande qu'une noquette de beurre, et autour, cette petite raouette.
Rien qu'un petit idée, moi, je suis déjà toute sauce.
Oui, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on arrive.
On se rend compte que c'est une découverte qui a cassé la baraque.
Attends, oui, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait?
Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a pris un bac.
Ah oui, ça je connais, c'est un instrument de mesure.
Mais qui est bien celui-là de Nia? T'as casier de bière.
Ah, d'accord. Alors attendez, à ce propos, j'ai appris que vous vouliez baptiser les planètes avec des noms de bières trappistes.
Bon, en tout cas, pas contre rire.
Mais comment vous allez procéder?
On va toutes les goûter.
Chimie, Orval, Rochefort, Westmal. En Belgique, on a tellement de bières que des planètes, on peut encore t'en trouver par paquet de 12. Hein.
Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on a une idée des caractéristiques physiques de ces planètes?
Oui, l'orbite mesure environ 52 millions de kilomètres.
Au repos.
Mais vous savez, en astrophysique, ce n'est pas la taille de l'orbite qui compte.
Oui, d'accord, je comprends. Alors, on dit qu'il y aurait 3 planètes dans une zone habitable. Qu'est-ce que ça indique précisément?
C'est-à-dire qu'on a un bon espoir d'y trouver de l'eau, hein.
C'est bien la première fois qu'on a l'espoir de trouver de l'eau quelque part.
Oui, un jour on trouvera de la gueuse, hein, c'est vraiment la preuve de l'existence de l'intelligence humaine, hein, tu sais.
You
Voodoo Game, elle décide que c'est un moment que tout le monde attend.
Le moment Meurice. Alors, il faut choisir le meilleur. Alors, on s'est dit, bah, peut-être...
L'embarras du choix.
Mais oui, oui, évidemment, mais le salon de la chasse. Il y a des endroits où on aime bien envoyer Guillaume. Le salon de la chasse s'en est un.
Mais oui, mais je vais vous parler aussi de la campagne, finalement. Alors, pas de la présidentielle, hein. Je vais vous parler des pigeons, des vautours et des hyènes. Mais pas de Fillon, Le Pen, ni Macron en fin de meeting. Je vais vous parler des vrais animaux. Parce qu'en ce moment même a lieu donc le fameux salon de la chasse à Mantes-la-Jolie. Salon international. Attention, ça rigole pas. Évidemment, je m'y suis rendu avec ce besoin de comprendre qu'est-ce qui peut bien plaire à un être humain dans le fait de dérouiller des animaux. Quelles sont donc les joies de la chasse?
Ouais, dans une tous ensemble, on pète, on se sent les pieds, tout ça. Et il y a un bonding qui se fait.
Un quoi?
Bonding.
Qu'est-ce que c'est?
Bonding, une union.
On pète, on pue des pieds, donc il
ouais,
y a une union.
Voilà, il y a une union, il y a une union de mâle.
Ah, une union de mâle. Ça, ça fait envie, hein. On croirait un porno gay, mais non, c'est la chasse. Hein, laissez tomber, vous pouvez pas comprendre, hein, Mélanie et Charline. Vous vous pétez et vous puez des pieds, mais chacune dans votre coin. Ça n'a rien à voir. Une partie de chasse, c'est pas ça. Par exemple, buter un lion, ça fait quoi?
De voir un super animal qui est sur son terrain et que c'est le roi là-bas et qu'on arrive à l'achever finalement, on a de la peine, mais en même temps, on a quand même réussi quelque chose et on a la chair de poule.
Ouais. Mais vous avez quand même de la peine?
Ouais.
Mais pourquoi alors?
Parce que c'est le roi dans son domaine.
Ah oui, d'accord, mais bon, bah, vous avez un fusil quand même. Donc...
Ouais, mais lui, c'est pour ça. On a tué quelqu'un qui est le roi dans son domaine et on l'a tué. Mais... Vous comprenez ce que je dis ou non?
Non, absolument pas. Mais ce qui est clair, c'est que ce monsieur, en plus de buter des rois des animaux, il encule des mouches. Hein, donc on est sur une double maltraitance animale. Continuons notre visite du salon avec un organisateur de chasse à l'ours.
L'ours se chasse sur Mirador. Sur Mirador, les ours sont appâtés, vous voyez. Et sur Mirador...
Et alors ils appâtent l'ours avec des...
Ils appâtent l'ours avec du miel.
Et l'ours vient manger le miel et bam.
Voilà.
C'est un peu une technique de chasse de feignasse, non?
Oui.
Oui, c'est ça qui coule, hein. T'as même pas besoin de te bouger le cul, tu te poses dans un transat, tu balances un pot de miel et tu défonces des ours à bout portant. C'est le panard. Alors attention, je vous vois venir. Les chasseurs aiment les animaux, hein. Ça, on le sait. Oui. Ce monsieur, il aime les chiens, par exemple. Il adore ses chiens, lui, il les adore tous, même s'il a son préféré.
Et j'en ai prénommé un, vous voyez, qui a 5 ans. Je l'ai prénommé Garou, comme le chanteur. Vous verriez ce chien, c'est quelque chose. Il faudrait que je vous le fasse voir en photo, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Pourquoi vous l'avez appelé Garou?
Garou, c'est un phénomène.
Mais parce que vous aimiez bien le chanteur?
Oui, j'aimais bien le chanteur. Je vous dis, vous ne pouvez pas vous imaginer ce chien, il est d'une gentillesse. Il lui manque que la parole.
Non, merci. Si c'est pour le faire chanter en duo avec Céline Dion, non merci. On préfère qu'il continue à aboyer, quitte à ce que ça ressemble à du maître Gims. Alors, avec ses chiens, il ne chasse pas l'ours, hein, bien sûr, parce qu'en l'occurrence, je ne donne pas cher de la peau de Garou, contre un ours de 150 kilos. Mais ce monsieur chasse les bécasses.
Garou, c'est un chien exceptionnel. Vous voyez, l'an dernier, sur la saison donc 2016, sur 5 semaines, il a fait tuer 300 bécasses.
300, c'est énorme.
Sur arrêt et tiré par un chasseur.
300 bécasses sur 5 semaines, c'est pas mal. Bravo Garou, le docteur Petiot de la bécasse, hein, comme il convient de l'appeler désormais. Alors attention tout de même, le chasseur n'a pas pour ennemi l'animal. L'ennemi du chasseur, c'est le vegan, hein, n'est-ce pas, monsieur le chasseur?
Ils mangent pas de viande, ils boivent pas de lait. Tu sais. Ils vont aux toilettes, ils prennent quoi? Du papier de verre? Ah non, il y a du papier, on prend pas. Ça a été fait dans...
Le papier, c'est pas un animal.
Si on pousse le truc plus loin, c'est des malades.
Ah ouais, vous pensez?
Bien sûr. Donc à mourir.
Mais bien sûr. Ils meurent, hein. D'ailleurs, les véganes meurent. Hein. On le voit tous les jours, il y a des accidents de véganes qui remplacent le PQ par du papier de verre. On les retrouve dans les toilettes au milieu d'une flaque de sang. Tiens, puisqu'on parle de mort, parlons de ce beau sweatshirt vendu sur place sur lequel on voit un homme pendu à un arbre avec ce slogan « Pendons les écolos pendant qu'il reste des arbres ». Alors c'est rigolo, hein. C'est l'humour de chasseur, mais c'est rigolo quand même. Explication avec le vendeur.
Bah, c'est un petit peu un message de ras-le-bol vu ce que les écolos nous font subir à nous les chasseurs.
Mais je croyais que les chasseurs étaient écolos, moi.
Oui.
Ah oui, mais alors vous êtes pour votre propre pendaison?
Non, pas du tout.
Bah du coup si.
Non, le terme écolo, c'est vraiment pour celui qui se dit écolo.
Si vous venez de me dire que vous étiez écolo, attention.
Ah oui, on en est, mais ah bah voilà. On ne porte pas le nom.
Ah oui, voilà, on le sait, le chasseur est un écolo caché derrière un gros calibre, un 4x4 et un cubit de rouge. Il aime la nature, hein, le chasseur. Bon, alors comme un pédophile aime les enfants, disons qu'il aime à sa manière. Mais attendez, qui sommes-nous pour juger? C'est ainsi que nous sommes en mesure de conclure avec cette citation qui pourrait bien être la devise des chasseurs du monde entier.
La nature est plus forte que tout. Jusqu'à une certaine limite, faut pas exagérer.
Voilà, c'est vrai que la nature, avec une balle dans le museau, elle fait moins sa maline quand même. Tout comme l'être humain quand il aura fini de tout saccager et qui comprendra que le blaireau, c'est pas forcément celui qu'on croit.
Guillaume Meurice, qu'on retrouve bien sûr lundi en direct avec un sujet tout frais. Et là, on poursuit l'émission avec Éric Judor.
Chouette émission.
Qui nous a éclaté le cadre, on peut
dire. Il était content d'être là.
Il était content, nous aussi. Bonjour Éric Judor.
Comment ça va, Charline?
Écoutez, très bien. Je suis ravie de vous
Est-ce qu'on parle tout de suite du titre de votre émission, qui est très vieux et qui se réfère à une actualité qui n'est plus...
Oui, mais maintenant, j'espère que l'émission est plus connue que le tweet de Nicolas Sarkozy, donc on va la garder.
Attention. Le niveau de cela raconte. D'accord, ok. Très bien, Charline. Ouais, je vois où je mets les pieds. Très bien.
Premier sujet, c'est...
Allez-y.
On switch de sujet.
Allez-y, Charline.
Non, on va y arriver. Donc, parce qu'il y a des thèmes comme ça où il suffit d'une phrase pour allumer la mèche et mettre le feu au débat pendant une semaine, minimum. Donc bravo à Emmanuel Macron pour ce magnifique allumage du débat bien passionnel sur la colonisation. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'elle conditionne aussi l'attitude du visiteur français à l'étranger.
Jolie voiture. Dommage qu'elle soit aussi sale.
Il y a beaucoup de poussière dans notre pays.
C'est moins qu'on puisse dire. Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques. Je me suis dit, c'est sympathique au fond.
OSS, non ?
Sympathique. L'Égypte a régné sur le monde pendant plus de 2000 ans. Nous avons inventé l'astronomie, les mathématiques. Nos architectes ont construit des sanctuaires dont vos archéologues s'échinent encore à découvrir l'entrée. Monsieur Bonisseur de la Batte.
Oh, Romain. Lucien Romain.
Bérénice Béjot et Jean Dujardin. OSS 117, le Caire, nid d'espions. Voilà pour ce débat qui dure depuis un petit moment, allumé par Emmanuel Macron, mais François Fillon avant lui aussi. Vous, quel rapport vous avez à la colonisation, Éric Judor ? Est-ce que c'est un thème qui vous passionne, qui anime vos conversations de temps en temps ?
Non, c'est pas un thème qui me passionne. Pourtant, il me concerne, hein, puisque je suis évidemment autrichien, comme tout le monde le sait, mais aussi d'origine guadeloupéenne. Donc... issu d'une certaine forme de enfin pas d'une certaine forme de l'esclavage, hein, l'esclavage, et donc Bordeaux s'est bien enrichi sur notre dos, et j'ai jamais eu envie de pousser de coups de gueule, parce que je pense qu'il faut un petit peu de résilience et de regarder devant, parce que si on commence à se reprocher toutes les choses qui se sont faites pendant l'histoire, eh ben, on peut se reprocher ad vitam aeternam, et jamais la société ne réussira jamais à revivre ensemble, quoi. Donc
ça vous gonfle de voir à chaque fois qu'on parle de colonisation le débat qui se réanime sur.
C'est bien que c'est
hystérique
quand même...
un peu le débat, un peu hystéro quand même autour de ce sujet.
Ouais, enfin il s'est quand même passé des trucs en Algérie, un peu flippant, il s'est passé de la torture, et puis pareil pour les Africains qui ont été amenés aux Antilles, et ensuite à Bordeaux, etc. Il s'est passé des trucs. Enfin, il y a eu des morts et tout ça, mais...
Bien sûr, mais aujourd'hui, on est en 2017 et le débat est toujours aussi chaud.
Ouais, bah, moi, je suis pour... c'est pas oublier, hein, le garder dans sa tête, mais essayer de parler d'autres choses, avancer, quoi.
Est-ce que c'est pas plus un débat d'historien, au final, qu'un débat de politique ?
C'est un débat de distorsion, en tout cas, ça c'est sûr. C'est un débat qui divise et qui fait qu'on s'insulte et on s'engueule. Et moi, je suis pour l'amour.
Ça, c'est beau.
Donc, je suis pour l'avenir, regarder devant et la main dans la main.
Éric Judor est avec nous jusqu'à 18h. Et à côté de vous, il y a le célèbre André Manoukian.
Ah, c'est lui, d'accord, ok.
Oui, alors Charline. Alors, je vais faire un parallèle entre les grands jazzman et vous, Charline. À la radio, il y a la star et les chroniqueurs. La star, c'est vous, Charline. Nous sommes les chroniqueurs. Nous sommes à vos côtés. Nous vous soutenons. Parfois,
je ne suis pas une star.
Parfois, j'aimerais bien que ce soit.
Avant d'être célèbre.
J'aimerais bien que ce soit au sens propre du terme, d'ailleurs, que je vous soutienne. Mais bref, nous vous accompagnons. Nous bordons votre route. Nous vous couvrons. Moi, je vous couvre même du regard, à tel point que je sens tantôt vos joues rosir ou bien votre pouls qui s'accélère. Là, sur la jugulaire de votre cou. Suivant le flux émotionnel de l'émission. Flux parfois tendu entre les berges étroites du politiquement correct, flux d'autrefois plus majestueux comme un fleuve qui roule ses eaux, mais en tout cas jamais à sec. Alex est un capitaine trop avisé à la manœuvre. Eh bien, en jazz, chère Charline, c'est pareil. Il y a le leader et les sidemen. Le gars qu'on est en train d'écouter là, il s'appelle Maurice Vander et c'est un sideman formidable. Le leader à la base, c'est un instrumentiste comme les autres. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il se détache du lot, il passe devant, il prend l'ascendant sur les autres, tout en maintenant un rapport quasi amoureux avec son équipe pour que ceci ait toujours du plaisir à jouer avec lui, Charlie.
Tripote-là, vas-y. vas-y.
Maurice Vander est un vrai pianiste de jazz. Vas-y. Elle a la main si douce.
Il n'a si pas ça enregistré vous aide, André, si ça
beaucoup
vous aide.
D'albums, mais il n'a pas enregistré beaucoup d'albums, Maurice Vander, mais il s'en fout, et nous aussi.
Je me rapproche.
Parce que son génie, c'est qu'il était au service de Nougaro. Ou peut-être était-ce Nougaro sa chanteuse. Arrêtez, arrêtez. Quand on est un mélodiste, il faut trouver son instrument, Charline. On peut être musicien sans être mélodiste.
C'est une métaphore, trouver l'instrument.
Le mélodiste dit un récit avec ses notes. Il y a un début, un milieu, une fin. Il y en a qui préfèrent être des rythmiciens. Ils aiment quand ça groove. Les batteurs, les percus, bien sûr. Mais aussi les bassistes. Leurs pieds au grooveur, c'est qu'ils font tourner. Ils prennent une cellule et la font tourner. Et l'extase vient de la répétition. C'est super sexuel, me faites-vous remarquer. Mais bien sûr, mais c'est ça.
J'ai rien dit, moi.
C'était moi qui
maintenant,
vous le faisais
remarquer. Ça, c'était l'extase du rythmicien. Maintenant, vous prenez le piano, l'instrument roi. Pourquoi ? Parce qu'il couvre tout le spectre tonal, des notes les plus basses aux plus aiguës. Charline, ne bougez pas. Aucun instrument n'a une tessiture pareille. Ensuite, vous jouez toutes les parties sur un piano. La mélodie avec les 4 et 5 de la main droite, un contre-chant,
elle a des frissons.
Avec 1, 2, 3 de la main droite, l'accompagnement rythmique, guitaristique avec la. Vous la sentez, ma main gauche,
les trois premiers. Et enfin, elle est sur les
basses hein, avec les 5 et 4 de la main gauche. En gros, vous avez toutes les parties de l'orchestre sous vos 10 doigts.
Il y a combien d'octaves ?
C'est 8 octaves.
C'est pas parce que sauf tu as des beaux mots que tu peux te permettre tous les gestes.
Sauf qu'il faut avoir une indépendance de malade pour faire ça. Dissociez vos deux mains en 4 zones qui jouent 4 parties différentes qui s'imbriquent parfaitement les unes dans les autres. L'indépendance des membres, ça s'appelle. Maurice Vander était un virtuose et un joaillier, avec un toucher d'une extrême finesse. On a souvent dit qu'il était notre Bill Evans à nous, mais c'est au service de Nougaro qu'il s'est épanoui. Le grand géant, doux et beau gosse, qui se tenait majestueux derrière son clavier, sans jamais jouer une note de trop, bienveillant et décontracté, l'attention permanente avec le sentiment que la voix de Nougaro était le cinquième élément qui s'était intégré si parfaitement dans les parties orchestrales qu'il jouait de ses 10 doigts. Jamais il n'a voulu rompre ce charme. Pendant 4 décennies. L'avantage, c'est que les chanteurs sont peut-être plus fidèles que les chanteuses, Charline. Oh, Nougaro lui a fait un petit peu des infidélités avec son Nouga York, mais ils se sont vite retrouvés pour s'aimer encore plus fort. Parce que entre un pianiste et une chanteuse, même si la chanteuse a des grosses couilles et un accent toulousain coupé au couteau, c'est que de l'amour, Charline.
Merci voilà. André Manoukian. Alors, au-delà de la déconnette, c'est vrai que votre texte était magnifique. Et qu'on peut le réécouter sur franceinter.fr en se concentrant un peu plus.
On peut l'acheter même, je crois. Il est déjà en imprimerie.
Voilà, c'est un hommage à Maurice Vander.
Merci André. Éric Judor est avec nous jusqu'à 18h.
Il est là, oui.
Vas-y, c'était moi en fait. Il
ressemble.
Deuxième sujet. Le monde va mal. Crise économique, Trump. Réchauffement climatique, guerre, Trump, migrants. Le Pen à 30%, Trump. Alors, comment peut-on aller bien dans un monde qui va mal ? C'est la question posée en couverture de Philosophie Magazine du mois de mars.
Bah,
ouais, déjà, est-ce que tout le monde trouve que ça va mal et est-ce pour les mêmes raisons ?
De toute façon, vous en avez rien à foutre. Pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons ni de me faire à bouffer. Ah ouais. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse.
Mais qu'est-ce qu'elle a ?
13 ans.
Et la boum. Vous, Éric Judor, comment est-ce que vous faites pour aller bien ou essayer d'aller bien dans un monde qui va mal ? Si déjà vous admettez que le monde va mal.
On va parler d'actualité, c'est ça le truc.
Non, pas forcément. C'est votre manière d'affronter le monde au quotidien, les problèmes.
D'essayer, à mon petit niveau, d'envoyer les bonnes vibes, les bonnes ondes autour de moi. Parce que j'ai l'impression que ça fait écho et que ça se redonne. Un peu comme un relais et plus on est dans le gentil, dans le sympa, dans l'amour, plus les gens dans ton entourage le sont aussi, etc. Ça fait comme ça, c'est exponentiel. Et voilà, éviter d'être haineux, éviter.
Est-ce que vous êtes imperméable à la difficulté du monde, justement, pour peut-être rendre ces bonnes
vibes ? Pas du tout, mais j'ai l'impression quand même que on analyse encore une fois tout à chaud. Par exemple, Trump, c'est une catastrophe. Poutine est une catastrophe pour tous les médias. Il massacre Alep et tout ça.
Cependant, excusez-moi, mais Obama, juste avant, il balançait des milliers de drones sur l'Afghanistan, l'Irak, et des milliers de morts dont on n'a jamais parlé. Et la presse n'a pas foncé dessus. Ça allait aussi mal, quoi. Donc,
il était noir.
Trump et Hillary.
Il était noir.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est un point pour vous. On va reparler de colonisation, peut-être. Mais Obama est un très bon vanneur dans le dîner des journalistes étrangers. Il est très bon en late show. Il danse très bien. Il y a Beyoncé qui chante pour lui et il danse super avec Michelle Obama qui fait des séries télé et tout ça. Ils ont une super image, hyper sympa, mais il y avait tout un tas de morts, quand même, sous sa responsabilité.
Prix Nobel de la paix, quand même, faut le rappeler.
Ouais. Non, mais je veux dire, et c'est pour ça que moi, Trump, oui, c'est horrible. Et effectivement, le mec a l'air d'être totalement fou. Cependant, on se disait la même chose quand Reagan est arrivé, putain, carrément, un acteur président. Bon, ben voilà, on est 20, 30 ans plus tard. C'était pas la fin du monde. Et j'espère qu'il y a des coupe-feu quoi autour de Trump qui vont essayer de maintenir une situation à peu près vivable pour la planète quoi et pour les relations internationales.
Donc c'est important d'être heureux dans un monde qui va mal pour répondre à
je pense que quand tu parles de choses quand tu es positif et ben ça a des répercussions et j'ai l'impression que quand je regarde Google News c'est que des nouvelles horribles. Et du coup, ça a une influence sur. Quand je lis ça, ça me déprime. Et après, je déprime les autres en parlant de ces infos. Donc, j'essaye moi de m'imperméabiliser de ces nouvelles-là et essayer d'être plutôt dans le côté amour.
Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie d'Éric Judor. Et à cette heure-ci, Éric Judor, on a un rôle à vous proposer.
Ah oui, c'est l'heure du sketch et c'est pas évident. Oh là là. Ouais, attention, je vais vous donner un rôle, mais je pense que vous l'avez toujours rêvé, ce rôle. Ouais. Le rôle de François Hollande.
Bah oui. Et il faut faire la voix et tout ça?
Ah bah vous faites comme vous voulez. Je vous donne le contexte. Il était à Malaga avec 8 ministres. Cazeneuve était en Chine avec 3 ministres. Bref, il n'y a pas un membre du gouvernement qui était là. Donc ils ont même déplacé le Conseil des ministres à vendredi.
Plus personne à Paris, vous voulez dire.
Voilà. Oui, j'entendais bien ça. Donc qu'est-ce qui va se passer à leur retour? Jean-Vincent Placé, lui. Je vais jouer Jean-Pla. C'était là. Vous êtes Ségolène Royal. Éric Judor, Hollande. Meurice Cazeneuve, on s'y rend. Ouais, il est de retour, il est là.
Il est là.
Bon, allez les gars. Je tente, hein.
Tentez.
C'est la fin des vacances. Comme dit le dicton, les bonnes choses donnent très faim.
Quel est l'ordre du jour? On essaie de faire passer un nouveau décret.
Oulala, mollo. T'as pas plutôt des photos de ton séjour en Chine?
Oh oui! On fait une soirée diapo!
Moi, je suis pas parti. Hein,
moi, j'ai pas de photos. Par contre, j'ai ramené des feuilles d'algues et du riz.
Oh oui! On fait une soirée sushi!
Comme dit le proverbe chinois, un sushi vaut mieux qu'un chat dans un plat. Bon, ok. Ça, on le dit pas en Chine.
Non. Et vous, Malaga?
C'était de toute beauté.
Honnêtement, j'ai trouvé l'Andalousie beaucoup moins jolie que Cuba. Hein. Cela dit, j'ai encore oublié de demander la liste des prisonniers politiques.
Comme on dit en Espagne, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Si, on le dit, ça. Bon, au Mexique, mais on le dit.
Oui, et vous avez eu du bon temps.
Moi, je ne suis pas parti. J'ai dirigé le pays, moi.
Ah, tu le fais bien, Hollande. Placé. C'était un peu Hollande. Placé. Ouais, mais c'était Hollande. moi, ce n'est pas terrible. Hein. Moi, tu sais bien, partout où je passe, la météo trépasse.
Oui, mais le résultat, à peine François est-il sorti à pied de l'avion, hein, c'est pratique pas qu'il y a une violente tempête qui a provoqué des inondations et un glissement de terrain.
Mais vous avez quand même un tout petit peu pu profiter des soirées. Hein.
Excusez-moi, je m'arrête sur la voie de Royal.
Bah c'est pas mal.
Très
hein.
Très bizarre.
C'est... Hein. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement.
Ça fait quand même très très vieille.
Mais là, c'est bossé.
C'est dans le futur, on est d'accord.
C'est bossé, c'est travailler à l'entraînement.
Je continue le texte. Oui. Une fois, je m'étais couché vers 9:30. Bonjour, comment j'étais fatigué après.
Excellent. Et la bouffe.
Ah bah, François s'est chopé la tourista à cause de la paella.
Le caca, c'est délicieux.
Ah, oui,
François. Vraiment avoir la référence du film, hein, parce que sinon, c'est bizarre ce que je dis.
François, t'es mignon, mais un tout petit peu con quand même. Hein.
François, t'es mignon, mais un tout petit breton. Ségolène, il faut que tu arrêtes de me parler comme à ton mec. T'es plus ma femme. You are not anymore my guy.
Moi, je suis pas parti. Et comme les 13 membres du gouvernement n'étaient pas là.
Jean-Vincent, oui. Profite-en.
Oui.
Bah donc il manque un S. C'est la fin du mandat, c'est open bar.
Ah mais j'en ai profité, j'en ai fait pipi dans ma culotte.
Hein,
mais j'ai espéré qu'il se passe quelque chose de grave.
Mais il est complètement con.
Non mais j'aurais dû gérer le pays, j'aurais été De Gaulle sans aller à Londres.
Comme on dit en Corée, c'est en mordant dans le litchi qu'on se rend compte qu'on n'aurait pas dû l'acheter.
Ah oui. Ça par contre tout le monde le dit.
C'est vrai.
Alex, puisque c'est vendredi, c'est...
C'est Fromet. Et là aussi, il a fallu choisir une belle chanson, et il y en a plein. Mais celle sur la clause Molière nous avait beaucoup plu.
Au jour d'aujourd'hui, moi c'est qu'est-ce que je dis ? Il y en a des gens qui croivent qu'ils ont tous les droits, grave au niveau du travail. Moi c'est qu'est-ce que je vois ? Il y en a des étrangers qui ont du mal en français. L'autre fois j'y dis au gars qui est sur le chantier, où que c'est que t'as mis la truelle à José ? Je sais c'est quoi que vous vous disiez, y en a des fois où que c'est qu'on est trop carré, mais c'est plus mieux au niveau de la sécu. Ouais c'est dangereux, faisais gaffe à la grue, parce que si tu causes pas la France, bah tu la vois pas la grue. J'ai envie de dire que si tu ferais une erreur, ben le plus pire, faudrait que tu vas au docteur. Et attention à l'infractus, hein. Au jour d'aujourd'hui, moi c'est qu'est-ce que je dis, on serait moins emmerdé s'il y aurait des dictées au niveau du travail. Moi c'est qu'est-ce que je vois, y en a qui croivent que le petit Robert, c'est juste mon pote qui s'appelle Robert et qui est pas très grand. Y a pas de souci, on n'est pas des animaux. On veut juste pas lire dans les journaux que pour une syntaxe, un ouvrier est mort. C'est mieux qu'il se casse direction l'aéroport. C'est pas de notre faute, nous qu'on est des Gaulois. On veut que les autres, ils parlent notre patois. Malgré que v'là, t'y pas que nous on est. Même pas cap d'aligner deux mots en anglais. The droite is running after the extrême droite. Au jour d'aujourd'hui, moi c'est qu'est-ce que je dis, y a deux drôles de français qui sont rémunérés au niveau du travail. Moi c'est qu'est-ce que je vois, pour des idées honteuses, plus con qu'une pelleteuse, la clause Molière. C'est quoi qui vous a pris? Il fallait faire la clause Ribéry. Et même pire, vu la xénophobie, il faudrait dire que c'est la clause Barbie. Ein, zwei, drei, vier. Au jour d'aujourd'hui, moi c'est qu'est-ce que je dis, cette petite mélodie, c'est moi qui l'a écrit. Au niveau du travail, moi c'est qu'est-ce que je vois, 5 minutes ça m'a pris, autant que ceux qui ont réfléchi à cette clause pourrie.
C'est la fin de cette émission et la fin de la semaine.
Mais qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine ?
Eh ben déjà, on se retrouve lundi en direct.
C'est sûr,
je serai
là.
Et en pleine forme avec Bertrand Burgala.
Très bien.
Et puis, je peux déjà vous dévoiler les invités
allez-y,
de la semaine. Jean-Marc Mormec.
Le boxeur, j'adore.
Catherine Fro.
Grande comédienne.
Et je ne sais pas si j'ose vous le dire.
Dites-moi.
Respirez.
Oui.
Claire Chazal.
Il est évanoui.
Il est mort. À lundi.
Je vais dormir ce week-end.